bienvenue dans une nouvelle émission de Brisons la glace. Brisons la glace, c'est le podcast francophone de Norvège. Nous sommes le jeudi 13 avril et nous avons une émission encore très chargée aujourd'hui avec des chroniques qui vont nous faire voyager dans le temps avec Valentin. Bonsoir Valentin.
Bonsoir.
Tu vas nous parler d'histoire encore une fois. Nous allons aussi parler de bioéthique avec toi Alice.
Coucou.
Salut, salut. Et Emma, tu vas continuer sur ta lancée tech et intelligence artificielle.
Ah bah oui, là, faut aller dans le turfu les amis.
Un beau programme aujourd'hui, mais ça fait 15 jours qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce que vous avez fait de beau pendant vos vacances?
Alors moi c'était Flixbus 8h jusqu'à Stockholm. Et non, j'ai encore eu de la neige là-bas. Et j'ai surtout pu faire le musée Abba. Et non, on a un peu de découvertes un peu sur leur on parle beaucoup de des lieux où ils ont créé, leur histoire. Puis après, il y a des activités assez sympas sur on peut chanter dans un studio et puis après on peut danser à côté d'eux aussi, bon, de manière virtuelle bien sûr.
Ah, c'est génial.
Et non, à part ça, balade aussi dans la baie de Stockholm. Il suffit de prendre un ferry, puis on peut arriver sur une île et faire un petit tour dessus. Je recommande.
Vous connaissez Stockholm, Emma?
J'y suis allée une fois.
Alice?
Bah, moi, j'y suis allée pendant les vacances, mais c'est pas aussi bien passé que pour Valentin.
Ah bah non, qu'est-ce qui s'est passé?
On devait faire un aller-retour sur une journée, donc arrivé à 6h30. Donc à 11h30, on avait déjà fait 10 000 pas, visité toute la ville et tout. Ouais. Et on devait repartir à 23h, donc assez carré pour faire tout un programme. Et en fait, à 11h30, on se dit, bon, on va checker le Flixbus, s'il y en a vers 20h ou quelque chose comme ça. Et là, on apprend que le Flixbus du soir est annulé. Du coup, c'est soit on en prend à 14h, soit on en prend à 16h. Non, à 23h. Du coup, on a pris celui de 14h et on a fait 15h de bus avec 5 heures de pause de 22h à 2h du matin.
À cause de quoi?
À peu près 21h à 2h du matin à Göteborg. La gare, elle ferme à 1h du matin, donc on était dehors, il faisait moins 2. Puis après, on a repris un Flixbus à 2h du matin pour rentrer au Oslo.
Eh ben dis donc,
c'est la jeunesse.
T'aurais pu faire une chronique.
Ouais, mais non.
T'enregistrer tes péripéties. Et toi, Emma, donc t'es allée skier?
Ouais, moi je suis allée à Lillehammer, rappelez-vous les JO de 94, ouais. Alice était pas née.
Tu la regardes, rappelez-vous.
Oui, c'est exactement ça. Donc voilà, moi c'était un peu beau Flandre sur les pistes, avec une constatation du retour de la combi 80s-90s.
C'est quoi, c'est fluo? Non.
Bah, la combi, quoi. La vieille combi avec un peu les épaulettes et tout.
Ouais, ça revient à la mode.
Avec les mecs, donc, torse nu en dessous. Un peu la grande classe.
Mon père, il serait content. Il avait une combi jaune. Ouais. On le voyait pas.
Moi, j'en avais une avec des pommes vertes à l'intérieur. J'ai bien regretté de plus l'avoir. J'avoue. J'aurais été dans les tendances avec une enceinte sur le dos pour.
Ah ouais, t'es comme ça, toi.
Ah non, mais là...
DJ Montagne.
Non, mais c'est ça, on a vu au moins 3 mecs différents avec des enceintes d'environ 15-20 kilos sur les épaules. Et donc, skier en combi torse nu comme ça, en passant de la grosse merde.
Encore si vous avez passé du bon son.
Non, c'est ce genre de morceau que c'est, je vais pas le faire maintenant, mais qui vous reste dans la tête pendant très très longtemps.
Et est-ce qu'ils sont bourrés les Norvégiens quand ils font du ski aussi?
Oui, ça, on a vu les mêmes mecs avec leur petite flasque de Jägermeister dans la poche de la combi. Bon, bref.
Oui, vu que l'alcool est moins cher maintenant en Norvège, ils ne s'y privent plus.
Ah ben c'est ça, puis c'est posque, hein, c'est posque.
Alors j'ai lu qu'en moyenne, les Norvégiens mangeaient 9 quick lunch par an. Ça m'a paru super bas.
Ouais.
Mais 3 à Pâques. Quand même.
Ah.
Donc il y a quand même un tiers de la consommation des quick lunch qui se fait à Pâques.
Il n'y a pas un Norvégien qui a amené un quick lunch. Hein.
Ah, en tout cas. Ça tout se perd.
Enfin, oui, je sais pas, on ne rentre pas dans les chiffres. Là.
Et pardon, mais vous définissez comment un quick lunch?
Ah, ils en sont là.
C'est un truc de boomer peut-être.
Non. Mais Valentin, le quick lunch c'est comme les Kit Kat, mais c'est le Kit Kat de Norvège.
C'est comme les M&M's qui s'appellent pas M&M's, tu vois.
T'as pas goûté encore?
Si. J'avais pas retenu le nom. Mais c'est vrai qu'il y avait une grande fierté de ce biscuit-là. Ouais. Ici.
Moi, je vous recommande les barres chocolatées au quick lunch. Ça, elles sont très très bonnes.
D'accord.
Faudra que tu nous... On fera une dégustation peut-être
la dégustation
prochaine. Gastronomie norvégienne, c'est possible.
Ouais. Et ben, quant à moi, j'étais à Copenhague, donc on a un peu fait les capitales scandinaves plus le ski. Beau temps à Copenhague, c'était super. Je me suis dit, tiens, une ville sans neige, comment ça se passe déjà? Et d'habitude, bon, bah, Copenhague, il pleut beaucoup, mais là, on a vraiment eu de la chance, pas de pluie, on a pu voir les copains, faire des bons restos. Donc très très bien. Alors pour enchaîner, j'ai un tout petit agenda du week-end. Alors je sais qu'on est déjà jeudi, mais ça peut profiter à nos auditeurs pour les prochaines fois. Les jeudis soirs à Nieu, il y a du stand-up en anglais. Donc ça commence à 21h et en fait, je sais pas si c'est toutes les semaines ou toutes les deux semaines, il y a du stand-up en anglais. Si vous comprenez pas le norvégien, c'est bien d'avoir des alternatives. Voilà. Ce vendredi, sinon, il y a l'événement Café et Vinyle au Musée National, donc au Café du Musée National, entre 4h30 et 21h. C'est gratuit, donc vous pouvez juste venir et prendre un café, écouter de la bonne musique. Et le soir, vous pouvez aller faire le bingo, gratuit encore, à 7h, à Broad and Circus. Voilà. Et l'autre événement que j'ai vu, c'était pour samedi. C'est le jour du turban norvégien. Donc entre midi et 17h, vous pourrez essayer un turban à Spakersuppa. Donc ça, c'est à côté de National Theatre. Et c'est un peu peut-être prendre une photo, manger un peu indien. C'est un peu pour se rencontrer, briser les tabous autour du turban, qu'on en voit quand même pas mal. À Oslo, en tout cas. Donc voilà, si vous voulez vous voir votre tête avec un turban, vous pouvez aller. Donc c'est cette journée du samedi de midi à 17h. Voilà.
C'est une tradition, les bingos en Norvège ?
C'est un truc scandinave. Bon, au Danemark, il y en avait beaucoup aussi, des bingos. Il y avait drag bingo aussi.
Ouais, drag attends, bingo
tous les
France,
jeudis.
Hein,
En France aussi ?
Ah ben moi, j'ai déjà fait un bingo en Bretagne, personnellement, ouais. Et un autre en Saône-et-Loire, comme quoi.
Mais est-ce que c'est un loto ou un bingo ?
C'est
un bingo.
C'est quoi la différence entre un loto et un bingo ?
Bah parce que le loto, pour moi, c'est tu passes des heures et des heures avec ton grain de maïs à mettre les trucs comme ça et machin.
Ouais, mais ça, c'est un bingo.
Oui, je rejoins Emma, là.
Mais là, je les trouve plus... Là, tu vois, ils ont des applications. Quand j'étais allée à Drag Bingo, à... Ah, comment il s'appelle ? Le Barguet. De aide-moi Emma. C'est Oscar ? Non, c'est comment il s'appelle ?
Alexeur.
Hein ? Non, l'autre. Ah,
celui qui est dans la rue là-bas.
Celui qui s'est fait attaquer l'année dernière. Peu importe. Ils ont le drag bingo tous les jeudis. Et là, en fait, t'as ton application et voilà, tu suis ton bingo quoi.
Ah ok. Ouais, c'est un peu comme l'autre application là où on joue dans les jeux d'entreprise, là, les quiz d'entreprise.
Et après, les grilles, elles sont vachement plus petites que les grilles. Je crois que c'est 9 chiffres, quoi.
Ok. Et t'as gagné un truc ou pas ? Parce que
c'est... Ma pote qui est allée, elle a gagné la machine.
Un jambon.
Ah non, mais alors, c'était quand même une sacrée expérience. Donc, il y avait plusieurs sessions, un peu comme le loto où t'as la kin, machin. Bon, bref, c'est pareil. Donc, tu pouvais gagner si t'avais une ligne verticale, une ligne horizontale, ou si t'avais, bon, voilà, ou deux lignes, machin. Et il y avait un mec, il a gagné genre 4 fois. Sur cette possibilité, tu vois. D'accord. Et après, ben, ma pote, elle a gagné, sauf qu'en fait, elle était en égalité avec quelqu'un. Donc, du coup, ils se sont départagés, ils devaient faire un lip sync. Donc, ils ont passé une chanson et ils devaient faire une danse. Voilà. Et sauf que, en fait, on a voté, le public a voté, donc il semblait que c'était. Ma pote qui avait gagné et en fait la drag queen qui organisait le bingo dit non c'est toi qui as gagné donc c'est l'autre qui avait gagné et sauf qu'en fait ils n'arrivent pas à se mettre d'accord donc ils ont refait une compétition de rock paper scissors et c'est elle qui a fini par gagner tout ça pour gagner la machine un peu comme SodaStream.
Ah ok.
Et vu qu'elle en voulait pas, elle nous l'a refilé.
C'était pour l'honneur.
Grande histoire. En parlant d'histoire, on va voyager dans le temps maintenant avec toi, Valentin.
Alors. De quelle chanson vous avez entendu là? Et oui, donc pourquoi j'ai mis la chanson Waterloo? Parce que on va parler de Napoléon et de la Norvège. Oui, c'est possible. Bon, du coup, comme le dit la chanson, le Napoléon perd à Waterloo, du coup le 18 juin 1815 pour être précis. Et ça va avoir une importance pour la Norvège. Alors, d'abord un petit rappel d'histoire française. Donc on a eu le 14 juillet 1789, prise de la Bastille. Ensuite, quel régime suit?
On est parti pour une interview.
J'aurais dû.
Alice, c'est elle qui est encore aux études. Allez.
Après la Révolution française.
Monarchie constitutionnelle.
Ah oui,
j'allais dire monarchie.
Trois ans, on coupe la tête de Louis.
Louis XVI.
Première République qui commence. Ouais. Donc on se met à dos les monarchies européennes. Tout le monde nous attaque. Puis en 1799, coup d'État de Napoléon. Mmh. Qui du coup transforme cette république en empire. Alors s'en suivent beaucoup de batailles. Et nous voici en 1812 avec un empire français qui s'étend de Cadix en Espagne jusqu'à Varsovie, en passant par le sud de l'Italie. Et bon, du coup je vous parle de 1812 parce que c'est l'apogée de l'empire. Après les Russes vont défaire Napoléon et c'est le début de la fin pour lui.
Mais alors c'est quoi le lien avec la Norvège ?
Alors, si vous vous rappelez bien, à la fin de ma chronique sur la peste noire, j'ai dit que la Norvège formait une union avec la Suède et le Danemark, donc on était à la fin du XIVe siècle, et c'est l'alliance de Kalmar, enfin le traité de Kalmar, du coup, qui scelle cette alliance. Alors, entre la fin du XIVe et le XVIIIe siècle, et la fin du XVIIIe, pour être précis, des choses sont passées forcément. Donc on a la Suède qui s'est fait la malle, donc on se retrouve avec une seule alliance entre la Norvège et le Danemark. Et sur la fin du 18e, donc l'alliance se porte plutôt bien. En fait, donc on a beaucoup de guerres qui ont lieu entre différentes puissances européennes. On a le royaume dano-norvégien qui décide de se déclarer neutre au milieu de toute cette guerre. Du coup, ça permet aux Norvégiens de vendre du bois d'œuvre, du poisson séché, des métaux à tous les belligérants, quel que soit leur camp, parce qu'ils sont neutres. Et puis aussi de pouvoir naviguer tranquillement et de livrer toutes ces victuailles aux différents pays d'Europe sans être craint du coup d'être envoyé par le fond.
Alors qu'est-ce qu'il fait là Napoléon dans cette histoire?
Alors en fait tout se passe bien jusqu'en 1807. Donc Napoléon en a assez de la résistance anglaise et va utiliser d'autres leviers pour affaiblir le Royaume-Uni. Il va du coup annoncer le blocus de l'île. Et tous les ports d'Europe, du coup, même ceux qui sont hors du contrôle français, ne doivent laisser passer aucun bateau anglais. Et tout commerce avec les Anglais est interdit. Forcément, les Anglais, un peu revanchards, vont faire la même chose aux Français. Donc, on est forcément obligé de choisir son camp dans cette situation-là. Et le royaume Danemark-Norvège fait donc un choix, et c'est celui du camp français.
Ok, donc on est en 1807. En 1812, c'est l'apogée de Napoléon. Est-ce que c'est plutôt un bon choix pour eux?
Alors, en apparence, oui. En fait, c'est surtout pour les Danois. Parce que, comme je l'ai dit, la Norvège exportait, grâce à ses navires, une grande quantité de biens à travers l'Europe. Maintenant, on est en phase de blocus. Donc, les Anglais vont faire blocus sur les ports norvégiens. Et du coup, on se retrouve avec les Norvégiens qui ne peuvent plus vendre leurs produits. Donc, on se retrouve avec une crise économique. La Norvège est toujours aussi dépendante des pays de l'extérieur, du coup, pour se fournir en blé. Du coup, on a une double peine, crise économique avec un petit supplément famine. Et pour le dessert, du coup, on a le roi danois, du coup, qui demande à ses sujets norvégiens d'attaquer le royaume de Suède, qui tient, lui, avec l'Angleterre.
Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand Napoléon se prend une raclée par les Russes en 1812?
Eh bien, pour lui, c'est le début de la fin, et en plus, tous ses alliés le lâchent les uns après les autres. Tous? Non. On a le royaume de Danemark-Norvège qui lui reste fidèle. Sauf qu'à côté, on a les Suédois qui commencent à prendre le dessus au niveau militaire sur ce royaume, et en plus, ils sont bien intéressés par la Norvège pour l'intégrer dans leur royaume. Et c'est finalement ce qui va se passer, avec le traité de Kiel, en janvier 1814, on a la Norvège qui va être intégrée à la Suède.
Et qu'est-ce que ça va changer pour les Norvégiens?
Alors si on regarde de loin, la Norvège ne fait que changer de royaume. Elle passe du côté danois au côté suédois. En apparence, pas grand-chose. Mais en fait, si on regarde dans le détail, il se passe plusieurs choses. Alors, en janvier 1914, on a un peuple norvégien qui commence à songer à l'indépendance, à une constitution. Ils sont pas forcément très friands d'être attachés aux Danois. Ensuite, on a les, pardon, aux Suédois. Ensuite, on a les Suédois qui ont envie de, qui continuent à se battre sur le continent européen et qui ont pas assez d'armées à envoyer pour l'instant en Norvège. Et ensuite, on a aussi un roi en Norvège qui est installé depuis peu, qui s'appelle Christian Frédéric. Et qui a des grandes ambitions pour son pays, notamment d'indépendance et de constitution. Et ça sera la suite du prochain épisode, à savoir qu'on parlera sûrement du coup de la fête nationale qui a lieu le 17 mai 1815.
Eh bien, merci.
Tu sais nous faire rêver, Valentin.
Oui, parce que doucement, doucement, on se rapproche du 17 mai.
Non, puis après, on sera un collab, surtout.
Faut qu'on.
C'est notre intégration en dépend.
J'avais envie de tout faire, mais la Constitution, il y a tellement de choses à dire que j'ai dû scinder.
On en reparlera une fois prochaine. On va faire une petite pause. On va écouter une musique.
Alors, du coup, vu que Napoléon s'est pris une raclée par la Russie, qu'à l'époque on avait les tsars, du coup, je me suis dit, on va mettre les tsars d'Indochine.
Allez, voilà. On va écouter Indochine avec les tsars. Eh bien, de retour dans Brisons la glace. Alors, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter ou nous réécouter sur SoundCloud. Toutes les émissions seront publiées là-bas. Vous pouvez aussi nous joindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. Enfin, dernière annonce, nous sommes à la recherche de nouveaux chroniqueurs et chroniqueuses. On a une bonne équipe et une grosse ambiance, donc n'hésitez pas à nous contacter.
Et puis, on peut parler de tout.
On peut parler de tout. Tout est... Bienvenue. Alors avant la pause, on a parlé d'histoire et de Napoléon, et là on va complètement changer d'ambiance avec toi, Alice, tu vas nous parler de bioéthique.
Oui, alors on va parler des lois bioéthiques. Donc tout d'abord, je vais faire un retour sur ce qui se passe en France. Du coup, la PMA en France, elle est ouverte à toutes les femmes depuis le 29 septembre 2021. Cependant, elle n'est pas ouverte aux hommes transgenres. Et du coup, le décret d'application précise que le don d'ovocytes peut être réalisé chez les femmes jusqu'au 43e anniversaire et le don de sperme chez les hommes jusqu'à leurs 60 ans. Mais du coup, qu'est-ce que l'assistance médicale à la procréation ? Du coup, ça rassemble l'ensemble des techniques médicales qui peuvent être proposées à un couple ayant des difficultés à avoir un enfant ou ne pouvant pas en avoir, que ce soit un couple hétérosexuel, lesbien ou une femme célibataire. Et parmi ces techniques, on retrouve l'insémination artificielle, du coup, qui est faite directement dans le corps de la femme, la fécondation in vitro, du coup, la fécondation est faite hors du corps, et l'accueil d'embryon, du coup, c'est l'accueil... d'un embryon qui provient pas forcément du corps de la femme directement en cas d'ovule non fonctionnel. Et du coup, par rapport à la prise en charge financière, en France, l'assistance médicale à la procréation, elle est prise en charge à 100% par l'assurance maladie, après un accord préalable de la caisse d'assurance, jusqu'au 43e anniversaire de la mère, pour 6 inséminations artificielles et 4 FIV. Et du coup, la prise en charge, elle est la même pour tout le monde. Et pour ce qui en est de l'accès aux informations du donneur, du coup, il y a deux règles. Pour les personnes majeures nées de dons effectués avant le 1er septembre 2022, cette demande d'accès aux origines, elle émane de la personne qui est née du don une fois qu'elle est majeure. L'accès aux origines dépend du consentement du donneur, donc par rapport à la communication de son identité et de ses données non identifiantes. Du coup, avant le 1er septembre 2022, cette communication, elle n'était pas obligatoire pour le donneur. Donc, il pouvait être contacté par une commission si la personne née du don souhaitait recevoir les informations et connaître son donneur. Et cet accord, il peut être donné aussi après que la personne qui est née du don ait contacté la commission. Du coup, il peut évoluer dans le temps. Et concernant les personnes majeures qui sont nées de dons effectués après le 31 août 2022, la demande d'accès, elle émane toujours de la personne qui est née du don une fois qu'elle est devenue majeure. Cette personne, elle peut saisir la commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs, donc pour formuler une demande d'accès à ses origines. Et depuis le 1er septembre 2022, les donneurs de gamètes ou ceux qui proposent leurs embryons doivent obligatoirement donner leur accord pour la communication de leurs données et de leur identité. Et du coup, en France, on a eu une avancée sur la PMA. Elle n'est pas encore ouverte à tous et toutes. Et par contre, la GPA en France, du coup, la gestation pour autrui, n'est toujours pas légale. Mais du coup, qu'est-ce qu'il en est de la Norvège? Ça varie un peu plus. Donc concernant la PMA en Norvège, ce n'est que depuis septembre 2022 qu'elle est ouverte à toutes. Enfin presque, on va en discuter après. Et elle peut être pratiquée sur les femmes mariées en concubinage ou célibataires de moins de 46 ans. Donc concernant l'insémination artificielle, elle peut avoir lieu lorsque l'homme est incapable de concevoir, en cas d'infertilité inexpliquée, ou lorsque l'homme lui-même est atteint ou porteur d'une maladie héréditaire grave. Il faut savoir que c'est assez rare qu'on parle des hommes dans les textes de loi concernant la procréation. Du coup, les textes de loi en Norvège parlent plus des hommes que des femmes. Ce qui est assez étonnant. Et elle peut être aussi possible lorsque deux femmes sont mariées ou cohabitent dans une relation du type conjugal ou pour une femme célibataire. Concernant la FIV, du coup la fécondation hors du corps, elle ne peut avoir lieu que si une femme ou un homme est incapable de concevoir ou dans le cas d'une incapacité inexpliquée à son concevoir ou lorsque la femme elle-même est porteuse d'une maladie héréditaire grave. Et concernant le droit à l'enfant de savoir d'où il vient, les parents ont l'obligation d'informer leur enfant qu'il est né d'une PMA dès qu'il est en capacité de l'entendre.
Obligation. Et comment on vérifie ?
Il y a toute une petite procédure. Donc tout d'abord, l'enfant il doit le savoir dès que c'est souhaitable. Il a le droit de recevoir des informations sur l'identité de son donneur à l'âge de 15 ans. Et du coup, il y a un registre national de donneurs qui doit aider l'enfant à permettre...
De donneurs norvégiens.
À savoir d'où il vient, c'est encadré par la loi, c'est encadré par le corps médical. Et du coup, le registre est tenu par le ministère. Et il enregistre tous les donneurs de sperme ou d'ovules. Ça, on va voir après. Et du coup, le donneur doit donner son accord écrit pour qu'on utilise son sperme ou des ovules non fécondés. Et il peut retirer son accord tant qu'il veut, avant que la fécondation ait lieu. Et du coup, concernant le coût en Norvège, la sécurité sociale norvégienne couvre la PMA jusqu'à un certain nombre de tentatives. Et si tout le protocole avant est respecté, au-delà, la sécurité sociale, elle ne rembourse plus les essais. Y a une possibilité de se tourner vers le privé, mais c'est assez coûteux. Et comme j'en ai un peu parlé avant, il y a une particularité norvégienne. Donc tout d'abord, les ovules fécondés ne peuvent être insérés que dans l'utérus de la femme qui sera la mère de l'enfant. Et dans le cas d'une fécondation assistée pour des femmes célibataires, l'ovule il doit être récupéré sur la femme célibataire elle-même. Dans le cas d'un couple de femmes, l'ovule il doit être récupéré sur le corps d'une des deux femmes du couple, mais il peut être inséré dans le corps de l'autre femme. Et enfin, concernant la fécondation assistée pour les couples hétérosexuels, le don simultané d'ovules ou de sperme ou le don d'ovules fécondés n'est pas autorisé. Donc, tout d'abord, la Norvège, elle limite le don de sperme de façon assez stricte. Il peut y avoir que 8 enfants issus d'un même donneur.
C'est bon, Valentin.
Voilà. Et ensuite, le don d'ovules, donc d'œufs, il est interdit en Norvège. Du coup, la personne qui accouche, elle est considérée par la loi norvégienne comme la mère de l'enfant. Et le gouvernement, il insiste beaucoup sur le fait que l'enfant doit rester avec sa mère biologique. Il y a une forte croyance, et c'est encore assez conservateur de ce côté-là, que la famille se crée biologiquement, la mère en est à l'origine. Et du coup, il y a aussi une forte assimilation sur le fait que le don d'ovule, donc une femme qui donnerait son ovule pour une autre femme avec qui elle ne relationne pas, ou encore la GPA, consiste à une location du corps de la femme. Et c'est également pour cette raison-là que l'adoption en Norvège, elle est quasiment impossible. Parce que les femmes accouchent et les femmes gardent leurs enfants. Et c'est aussi pour cette raison-là que les femmes stériles, elles doivent aller à l'étranger pour avoir des enfants, parce que c'est pas légal, en fait, d'utiliser l'ovule d'une autre femme. Et en raison de la loi, des croyances, de la culture norvégienne, la question de la légalisation aussi de la GPA, elle est pas du tout à l'agenda politique. Et du coup, les couples, par exemple, gays vont à l'étranger pour soit adopter ou avoir recours à une GPA.
Mais du coup, ça pose aussi la question de s'il y a toute cette recherche possible aussi, ça va peut-être freiner certains hommes à vouloir faire un don. Enfin, je ne sais pas, Valentin, qui est le plus concerné ici, en pense. Est-ce que genre, tu serais prêt à faire un don, toi ?
Je me suis jamais vraiment posé la question, je te dirais. j'ai pas trop d'opinion là-dessus.
Et donc c'est interdit de donner ses ovules ?
En Norvège, oui. On ne peut pas donner ses ovules comme on donne son sperme. On peut donner ses ovules, son ovule, pour qu'il soit utilisé.
Oui, son propre ovule, ouais.
Pour qu'il soit utilisé chez soi, enfin, dans le cas de congélation des gamètes, soit utiliser chez sa partenaire. Mais il doit rester, en fait, dans le cercle familial ultra restreint des deux parents.
Ouais, c'est assez. Et la justification, parce que je sais que le don d'ovule, c'est très demandant pour le corps de la personne qui donne, beaucoup moins que pour le don de sperme. Est-ce que ça peut faire partie d'une des raisons pour laquelle il limite ça, ou c'est vraiment...
Alors moi, j'ai pas vu que c'était évoqué. C'est surtout vraiment pour des raisons déjà le fait que ça se soit beaucoup apparenté à de la GPA, et aussi surtout par rapport au fait que le lien à la mère, il doit rester très important et très très naturel. Et j'avais entendu aussi par rapport au don de sperme qui était limité, c'est parce que le pays reste tout petit et que forcément en fait le don de sperme fait que on partage de l'ADN avec des personnes qu'on connaît pas forcément. Et il y a une crainte, mais alors elle est limitée, qu'on finisse par se retrouver, par exemple, des années plus tard, en couple ou marié avec des personnes qui auraient eu le même donneur que nous, même si c'est très anecdotique et je ne sais pas si ça arrive. Mais ça fait, par exemple, partie des raisons pour lesquelles c'est limité. Et aussi pour que l'accès au donneur reste possible, parce que si le don de sperme est illimité, ça fait que 15 ans après, il y a toujours plus de personnes qui se tournent vers le donneur. Et ça complique un peu la démarche de recherche.
Ça me fait penser au film Starbuck. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, ce film québécois, qui relatait la vie de comment il s'appelle, David Wozniak, qui a conçu, par son don de sperme, a été le géniteur de 533 enfants.
Ah oui, oui.
Et en fait, le film est autour de certains d'entre eux, donc 142, qui décident de faire pression sur la clinique de fertilité pour qu'ils aient l'identité du donneur, quoi. Pour savoir qui est leur père.
Mais du coup, tu parlais de l'adoption. Après, il y a aussi c'est un autre sujet, mais je crois que le retrait de la. Enfin, dans un cas de situation sociale compliquée, j'ai l'impression qu'en Norvège, les services sociaux ont tendance à retirer plus facilement l'enfant de la famille. Et il y a peut-être.
Il y a de gros scandales là-dessus.
Oui, avec Barnevern.
Sur le Barnevern, des gens sont menacés. Enfin, en gros, c'est très facile d'enlever un enfant. C'est vachement bien pour certains enfants, évidemment, abusés, violentés, etc. Mais si votre enfant vous est enlevé parce que quelqu'un à l'école vous a dénoncé parce que vous avez un peu traîné votre enfant par la main, parce qu'il vous pouvez vous faire dénoncer. Et là, quand on rentre dans cet engrenage, c'est la catastrophe.
C'est la délation, quoi.
Ouais.
Alors, concernant l'adoption des enfants qui sont placés par les services sociaux, je ne sais pas comment ça se passe. Mais en tout cas, concernant les orphelinats classiques, comme on les connaît, par des enfants... qui sont nés, par exemple, sous X ou qui ont été abandonnés plus tard, ça existe presque pas en Norvège, parce que y a cette tradition qui fait que l'enfant reste avec la maman.
Je sais qu'en France, c'était un peu la grosse... il y avait beaucoup de manifestations à propos de ça, et
oui.
C'est toujours une question qui est débattue, et ça, ils ont pas mal reculé aussi sur les avancées qu'ils avaient pensé faire.
C'est vrai que ça a été une surprise après tout le
mariage pour tous,
le mariage pour tous, ouais. Puis surtout la manif pour tous qui a aujourd'hui un nouveau nom. qui pourtant ne change pas du tout d'idée et qui prend de plus en plus, recrute de plus en plus chez les jeunes, les marches continuent. Donc c'est vrai que ça a été une surprise quand la PMA pour toutes a été adoptée. Après, c'est vrai que ça pose toujours des questions parce que la loi, elle n'est pas complète. En France, par exemple, les hommes transgenres qui n'ont pas fait de transition médicale, mais qui ont fait une transition au niveau de la loi pour changer de sexe sur leur papier, ils n'ont pas accès à la PMA alors qu'ils pourraient totalement y avoir accès. Vu les débats que, par exemple, la question sur la constitutionnalisation de l'IVG, vu les débats que ça soulève en ce moment, je ne pense pas que ça, la question de la PMA pour les personnes transgenres se sera mise à l'agenda
de sitôt,
et pareil pour la GPA.
Hier, j'ai vu un bout d'émission de Quotidien de Diane Barthès qui expliquait que, aussi qui était face à des chiffres incroyables sur l'homophobie en France.
Ouais.
Donc, qui ne font qu'augmenter. Alors que, moi personnellement, j'avais plutôt l'impression qu'on était dans une courbe inverse. Manifestement, non, pas du tout. Donc, effectivement, je crois qu'il y a du chemin à faire.
Ça baisse. Ça a baissé. Ça a baissé jusqu'à récemment. Puis après, il y a eu les élections de 2022. La campagne qu'on connaît avec toute la banalisation de l'extrême droite et tous les propos qui vont avec, et surtout en fait des associations que ce soit religieuses et on peut dire fascistes comme Civitas, ou alors des associations étudiantes les Remparts, la Cocarde étudiante qui prend de plus en plus de place, qui sont des associations identitaire, comme ils aiment le dire, d'extrême droite, très très conservatrice. En fait, elles séduisent de plus en plus de personnes, et en fait de plus en plus de jeunes. Moi, je traîne pas mal sur TikTok et sur Twitter, et en fait, je suis totalement terrifiée par la radicalité des jeunes, que ce soit les jeunes catholiques, surtout les jeunes catholiques. Je trouve que moi, je suis issue d'un milieu catholique, et j'ai pas l'impression que c'est ce qu'on m'a enseigné. Et il y a une radicalité en fait qui est hyper récente et qui est hyper violente, et en fait elle rejaillit notamment sur l'homophobie, enfin sur les questions d'homophobie, sur les questions du droit des femmes à disposer de leur corps, et en fait ça fait partie de leur campagne, et ça fait partie de tout ce qu'ils prônent. Et le gouvernement réagit absolument pas sur ces questions-là, enfin à part balancer un ou deux ministres qui ont fait leur coming out pour essayer d'étouffer tout ce qui se passe dans le pays. Ils agissent, il n'y a pas vraiment d'agissement concret, donc ça ne va pas avancer très rapidement.
Non, mais on en reparlera, j'imagine.
Oui, c'est un sujet qui court, et on en reparlera bien évidemment dans le futur, s'il y a des avancées. On espère des avancées pour toutes les familles, toutes les femmes qui ont besoin de ces services-là. On va faire une petite pause musicale, on va écouter
Pomme.
Eh bien, de retour dans notre émission de Brisons la glace, un sujet un peu lourd qu'on a terminé avec toi, Alice. Mais il faut en parler aussi, de toute façon, c'est pas parce que... pas de souci. Alors moi, j'ai plutôt un thème neutre aujourd'hui. On peut mettre le jingle.
Un petit whisky, Suzanne?
Oui, alors je vais commencer par une charade de base. Alors, en deux syllabes, première syllabe, une insulte en trois lettres.
Con,
très bien. La deuxième, selon Céline Dion, il n'en suffira que d'un.
Il suffirait qu'on s'aime. Non, c'est pas ça.
Non, c'est pas Céline Dion.
Ah merde, c'est pas Céline Dion.
J'avais un signe.
Oui, si, la consigne. Ah, bravo. On va parler un peu de la consigne, de ses origines et de son rayonnement aujourd'hui. Alors, c'est sûr que pour moi qui est débarqué il y a 8 années en Scandinavie, une des premières choses qui m'a frappée, c'est de voir que toutes les boissons, les canettes en verre, tout est consigné. Donc, une couronne, deux couronnes, trois couronnes à chaque... Si on prend un pack, ça part vite, hein, donc on se dit, tiens, j'ai pris ma canette, 6 canettes, et je me retrouve à payer beaucoup plus. Ben oui, parce qu'il y a une consigne. Donc, en fait, on récupère des sous quand on les ramène au magasin. Mais ce système, il n'est pas franchement nouveau. À votre avis, quand est-ce que cette idée a vu le jour ?
À mon avis, si c'est comme en France, genre on l'a enlevé dans les années 80 et remis. Moi, j'habite là depuis 2011. Ça existait déjà, donc j'irais 2005 peut-être.
Alors, il faut.
Moi, je dirais
même avant. Ça même, ils n'ont jamais arrêté. Eux.
Un grand bond en arrière.
Contrairement aux Français, ils n'ont jamais arrêté.
Fin 18e.
En 1799, une entreprise irlandaise qui a mis une consigne en place pour les clients. Donc les clients, s'ils ramenaient leur douzaine de bouteilles d'eau gazeuse, ils pouvaient récupérer 2 shillings, donc c'est l'équivalent de 8,70 € quand même, d'aujourd'hui. Et ça fait 70 centimes par bouteille. Voilà, à l'époque, c'était pas mal. Voilà. En 1800, Schweppes s'y est mis. Voilà. Et la Suède était un peu en retard. Ils ont commencé en 1884. Ce qui a aussi entraîné la standardisation de leurs bouteilles. Alors, en Norvège, ils ont commencé encore un peu plus tard, en 1902. Et c'était 6 € par bouteille. Je sais pas comment on prononce. Par bouteille. Bon. C'est l'équivalent de 4 couronnes aujourd'hui. Voilà. Alors, ce que je ne savais pas, c'est que Vin Monopole, pendant un temps, a eu sa propre consigne, qui était valable donc sur les vins scandinaves, j'imagine, mais pas sur les vins importés. C'était un peu confus pour eux, donc au final, ça n'a pas vraiment marché leur système. Ils ont arrêté en 2001.
Bah, surtout vins scandinaves.
Ouais, c'était un peu limité. Si tu te
c'est quoi, vite et c'est bon.
Ouais, toutes les consignes des vins importés, ben, il n'y en avait pas. C'est quand même la majorité de ce qu'il y a à Vin Monopole. Bref, et en 1999, donc 2 ans auparavant, il y avait la société Infinitum, qui était avant Norsk Recirkulert, s'est lancée dans la consigne, dans les emballages recyclés. Alors, quand je vous dis consigne, ça vous fait penser à quoi, vous ? Quelle est votre relation avec ça ? Vous avez des images de Scandinavie, de Norvège, par rapport à ces bouteilles, ces canettes ?
Moi, je trouve ça génial depuis que je suis arrivée là. Je trouve que c'est un formidable moyen aussi, par exemple, quand on va dans un parc l'été, qu'il y a des pique-niques de partout. J'avoue que c'est assez satisfaisant de voir tout le monde ramasser, en fait. Hein, voilà. Si ce n'est pas les propres personnes qui ont consommé leur bière qui les ramassent, c'est des SDF ou... Ouais. Ou des gens de passage qui les récupèrent. Ça nous fait des parcs quand même relativement propres, hein, faut le reconnaître. Moi, je trouve que pour l'écologie, c'est super.
Ouais, alors, c'est un peu ce qui m'a frappé. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une différence notable entre la Norvège et le Danemark. Parce que le Danemark, ce qui m'a choqué, c'est de voir que ça devient un vrai trafic, en fait. C'est vraiment des gens qui sont, comme tu dis, SDF, mais c'est vraiment, ils se battent pour récupérer, le fameux sésame, hein, parce que ça commence à s'accumuler, mm-hmm. beaucoup de sous. Et c'est un vrai business, les emballages. Et si tant est qu'à Roskilde, donc le festival à Roskilde, ouais. J'ai travaillé dans dans un endroit où, en fait, les gens ramenaient les bouteilles et les canettes. Et en fait, on leur donnait un bon pour après se faire récupérer des sous, quoi.
Ouais, c'est pareil, Yaoya.
Ouais.
Là, ici, et du coup, ça marche très bien. Soit les parents, d'ailleurs, les gens qui viennent en famille dans les festivals, n'hésitent pas à missionner leurs enfants. Comme ça, ils ne s'ennuient pas de la journée.
Ah ben là, ouais.
Et ils payent les bières de papa-maman, ça, je l'ai vu plusieurs fois.
Et ce qui m'avait choqué, c'était peut-être en plein concert comme ça. Et puis, en fait, tu vois une personne complètement à plat ventre récupérer les trucs par terre, quoi.
Mm-mm.
Et tu manques presque de leur marcher dessus parce que ils ramassent la bouteille en verre. Parce qu'en fait, c'est bien pour l'écologie, mais en fait, les gens, ils le laissent tel quel, comme un déchet, quoi.
Moi, ce week-end, Oslo était vide, et en centre-ville, là, puis je vois un monsieur qui fait son jogging, qui porte un gros sac. Je me dis, ok, bizarre. Et en fait, il faisait pas son jogging, il courait de poubelle en poubelle pour être le premier à ramasser les canettes dans les poubelles.
Après un festival ou après
Non, mais ils font ça régulièrement dans ma rue, fouiller les poubelles pour ramasser.
Alors,
ça
le dimanche matin. Moi, j'en ai vu devant la bibliothèque tout à l'heure aussi, hein.
Tu fais ça dimanche matin très tôt, tu fais une bonne récolte. Hein.
Et donc, finalement, j'ai quelques infos pour vous donner une idée. Il y a à peu près 270 000 bouteilles et canettes qui partent à la poubelle chaque jour. Donc, ils ne sont
malgré
pas,
tout,
qui ne sont pas recyclés.
En Norvège.
270 000 couronnes par jour.
En Norvège.
Plus, en plus. Ouais. Ouais. Pardon, ouais, petit donc détail.
Ça fait, donc, ça fait une perte énorme de à peu près d'entre 35 et 40 millions de couronnes qui partent dans la nature chaque
par
année.
An. C'est ouf.
C'est fou, hein.
Ouais.
Donc, et pourquoi la France n'adopte pas ce système?
Parce que ça coûte moins cher de fabriquer plus de plastique dégueulasse que de recycler, non?
Est-ce que tu crois que c'est une question de prix?
Ouais, parce que moi, qui suis la doyenne de cette table, j'ai envie de te dire, quand j'avais 8 ans à peu près, 8-10 ans au milieu des années 80, on recyclait, hein, moi je me souviens des bouteilles de coca qui étaient recyclées, et ça c'est, à ce moment-là, je dirais c'est...
Consigné du coup.
Oui, elles étaient consignées.
J'ai dit quoi ?
T'as dit recyclé.
Recyclé, consigné, évidemment, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Ouais, et je pense que c'est vraiment vers 88 à vue d'œil, peut-être même avant, que du coup on a commencé à consommer que du plastique en fait, hein.
Ouais. Sachez qu'une bouteille recyclée, ça économise à peu près 12 téléphones chargés.
Ah ouais.
Enfin, la charge de 12 téléphones.
Eh ouais.
Ça paraît énorme, hein.
Ça paraît énorme. Recycler, les amis, recycler.
Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez vous balader dans les parcs et...
faut les ramener dans les bons magasins.
Ouais, tu peux aussi gagner à la loterie si t'as un peu de chance.
Ah oui.
Récupérer tes sous.
Je sais pas du tout, mais...
Qu'est-ce que tu veux dire par les bons
magasins? Par exemple, si on achète une boisson au Réma 1000, qui n'existe pas au Extra, on ne peut pas la ramener
si,
au...
Si.
Non.
Oh bah c'est assez rare. Hein.
Ah, franchement, moi, à chaque fois, ça tamponne.
Ah.
Ça ne prend pas au Extra et du coup, je perds ma...
Ah oui, après, ça dépend de ce qu'il y a marqué derrière. Parce que
oui, voilà, ça scanne le code barre.
Justement, ouais. J'ai une bouteille du Danemark, donc ils ont juste un logo qui est un peu différent.
Ouais,
ça vient
là,
de Lidl.
Ça va pas marcher.
Non, ici, je pense que je pourrais pas.
Moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter des trucs chez Kiwi, et les ramener chez Réma.
Mais parce qu'ils les vendent au Réma.
Non, pas forcément.
Ah,
ouais,
non, ça. Pense
à mon petit. Bon, ben, à creuser.
Shot de gingembre, par exemple.
C'est extra, ici, très sélectif.
Ouais. Du coup, on peut récolter de l'argent, on peut participer à une loterie, mais après, on peut faire un don aussi à la Croix, enfin à des associations.
On peut faire un don à la Croix-Rouge, C'est quand même vachement bien fait, ce système.
Donc voilà, des bonnes choses à garder de ce système de consignes. On va enchaîner pour terminer cette émission, le gros sujet tech de la soirée.
C'est Kermit qui chante, je vous préviens. Pourquoi est-ce que je vous parle de Kermit? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un Furby?
Oui.
Valentin?
Du tout.
Non.
J'étais né en 96.
Non. Ah bah c'est arrivé en 98 pourtant. Les Furby,
t'as pas,
c'est...
T'as pas
c'est,
eu un Furby à la maison.
Ouais, t'as jamais regardé les dessins animés, tout ça. Bon, t'as bref, alors les Furby, c'est cette espèce de petit oiseau qui est entre les Gremlins et un petit Yoda maléfique, en gros. Donc voilà, donc le Furby. Donc la révolution de ce jouet, c'était qu'au début, c'est que c'était un des premiers jouets interactifs qu'on a eu. Le Furby, il est muni de capteurs qui lui permettent d'entendre des sons, de sentir, et si on le touche, et aussi de voir la lumière. Donc voilà, on a montré un petit Furby, sinon n'hésitez pas à faire Google pour retrouver le Furby. Donc les Furby, c'est ces petits êtres qui sont déjà interactifs, on les caresse, on les éduque, plus vous allez lui parler français, plus il va parler français. Sinon, entre Furby, si votre pote il a un Furby, ils vont pouvoir communiquer ensemble dans la langue du Furbiche, la fameuse.
Sachez que Furby, ça veut dire poilu.
Voilà, merci.
En quelle langue?
Donc le Furby, figurez-vous qu'il y a une programmeuse qui s'appelle Jessica Card, pardon, qui s'est amusée à relier une peluche Furby à ChatGPT via un micro-ordinateur du nom de Raspberry Pi. Alors là, vous me dites quoi? Raspberry Pi, qu'est-ce que c'est? On y reviendra. On y reviendra une autre fois. Le Raspberry Pi, c'est un nano-ordinateur. Il a la taille d'une carte bleue.
et il permet donc de connecter manifestement son Furby à ChatGPT, mais aussi de programmer votre arrosage automatique. Mais nous y reviendrons une autre fois. Ça, c'était oui. pour le Raspberry Pi. Mais revenons donc à nos Furby. Alors, qu'est-ce qui nous prédit le Gremlin ? Eh bien, tout simplement que le Furby va dominer l'humain. Rien que ça. Alors, comment il va procéder ? Vous vous posez tous la question. Ben, c'est simple. Il compte infiltrer les maisons et leurs hôtes avec leur petite apparence mignonne. Ensuite, grâce à leur technologie avancée sur l'IA, ils pourront manipuler et contrôler leurs hôtes. Et grâce à ça, ils grandiront jusqu'à leur domination complète sur le monde.
Voilà. La domination complète sur le monde.
Vous êtes prêts à vous faire manipuler par un Furby ou pas ?
J'ai toujours eu peur des Gremlins, donc...
Ça, il faut un peu flipper. Pour continuer à vous faire un peu flipper encore un peu plus, direction les US, toujours, avec une info que j'ai trouvée sur Evangelique Info, ça y est, hein, sachez-le. Oui, oui. Sachez-le, oui, oui. Alors, c'est l'écrivain Hugues O'Hay qui s'est amusé à demander à ChatGPT s'il pouvait créer une religion. Donc ça, je précise aussi que cette religion était créée avant qu'il y ait la grosse discussion dont on a parlé il y a 15 jours, où on essaye un peu de modérer ChatGPT. Là, c'était un peu avant. Donc lui s'est demandé, est-ce qu'on pouvait créer une religion toute nouvelle qui n'existe pas ? La réponse est
oui.
Oui. Ben oui.
Évidemment. Et alors, est-ce que vous avez une idée de comment on pourrait appeler cette nouvelle religion ou comment elle pourrait s'appeler ?
Est-ce que c'est en lien avec le Furby ?
Non.
Sans lien avec le Furby ?
Non, aucun lien avec le Furby cette fois-ci.
Sans lien avec Elon Musk ?
Aucun non plus.
Une nouvelle religion.
Ouais.
Oh. La technologie comme Dieu.
Du pétisme. Ça s'appelle l'harmonisme, les amis. L'harmonisme. Il y a même déjà 10 commandements qui existent. Donc on en retrouve 3 mythes sur la naissance de l'univers, de la Terre et sur la façon dont les humains ont vu le jour. Ainsi, on parle de ton. Donc tout aurait commencé à l'époque du ton harmonieux. Et ensuite, jusqu'à son évolution, jusqu'à l'harmonie cosmique. Et c'est ensuite cette harmonie cosmique qui, à diverses formes de fréquences, aurait absorbé un corps céleste d'une énergie vitale créant la Terre. Et de cela seraient nés les êtres mélodiques que sont les êtres humains.
Moi, je donne.
Wow. Hein. Ouais. C'est carré.
C'est carré, hein, ce qui est... merci Alice. Pour ce qui est des 10 commandements d'harmonisme, on retrouve honorer l'harmonie cosmique, respecter et protéger la symphonie terrestre, ou encore chérissez et nourrissez l'essence mélodique en vous et chez les autres.
C'est très pacifique.
Ah, c'est hyper pacifique. Alors justement, on demande d'exercer l'empathie, la compassion, rechercher la sagesse et la connaissance. En bref, on nous propose une religion pacifiste, altruiste, avec quand même un arrière-goût de spiritualité New Age, pardon, avec une bonne touche de développement personnel très 21e siècle. Logique, vous me direz. Ainsi, les harmonistes pratiquent la méditation tous les jours. Si vous êtes harmoniste, il faut méditer environ 10 minutes par jour. Et parmi les coutumes, il y aurait un festival ainsi qu'un hymne pour célébrer l'harmonie cosmique.
Bah, ça me semble pas mal, ça.
Vous êtes prêts ?
Ah, tu nous envoies l'hymne ?
Non, j'ai pas l'hymne. Pas l'hymne, il n'a pas encore été
prochain
fait.
Défi.
Mais par contre, je peux continuer. J'ai une dernière chose dont j'aimerais parler. C'est d'un autre auteur futuriste qui s'appelle Ray Kurzweil. Alors lui, c'est un ancien de Google. Et alors lui, carrément, il nous prédit que l'être humain va attendre la singularité technologique d'ici 2045. Autant vous dire, c'est demain.
Alors qu'est-ce que ça veut dire, la singularité technologique ?
Alors déjà, il va falloir commencer à réaliser que dans 10 ans, on n'a plus de téléphone. Hein. Tout sera en réalité augmentée sur nos lunettes. Il n'y aura quasiment plus d'écran. On pourra penser... pour récupérer des informations, enfin bon, bref. Donc lui, déjà, pour lui, tout ça, c'est acquis. Hein. Donc lui, pardon, excusez-moi, je m'embrouille, on coupera. Donc, on aura tout sur nos lunettes. Mais revenons à ce bon Raymond Kurzweil, aussi décrit comme un gourou du transhumanisme. Le transhumanisme, c'est donc la fusion entre l'humain, la génétique, la nanotechnologie et la robotique.
Donc bon. Or, j'aime pas, déjà, j'aime pas ce groupe.
Ah non, mais alors, pour lui, donc, d'ici 2045, on pourra carrément arriver jusqu'à l'immortalité grâce à l'IA. Mmh. Je vous annonce que ça, là, c'est dans 20 ans, les gars. Hein. C'est dans 20 ans. Pour lui, le développement des IA sera tel qu'il sera possible de cartographier le cerveau avec une résolution suffisamment fine pour le faire vivre et même l'améliorer grâce à une intelligence artificielle. Le futurologue prédit également que les avancées technologiques pourront permettre à l'être humain de modifier sa biologie comme il le souhaite pour guérir de la plupart des maladies mortelles. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, non ?
Ça vient en même temps que le débat sur la fin de vie.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ce que j'allais dire, parce que je me suis dit, bon, bah, c'est bien d'être de vivre... Parce que si intellectuellement, ton cerveau, il suit, c'est bien. Mais si ton corps, tu l'as pas entretenu et qu'il suit plus...
Sauf que là, bah non, là, tu contrôles ton corps. Donc, par exemple...
Mais si tu veux dire, ah, je vais faire un marathon, sauf que t'as un corps de 110 ans... Tes articulations, elles ont 110 ans.
Bah, sauf si tu peux le reprogrammer comme si tu avais 18 ans.
Oui, mais là, tu changes tes os, quoi. Tu reprogrammes
pas.
Mais
là, on est dans le transhumanisme, Suzanne.
Oh là
on
là
est dans le transhumanisme. Oh. Tu vois, déjà, Raymond. Raymond, lui, il est déjà prêt à se faire cryonéliser. Hein. Ah. Il est,
C'est marrant, c'est vraiment un mix entre Black Mirror, Futurama, tous les trucs. Ça, tout devient...
Ouais.
Actuel,
les Simpsons l'ont prédit.
Mais les Simpsons, d'ailleurs, ils sont super forts à prédire.
Ah, ils prédisent tout.
Mais ça,
ça serait l'objet d'une autre chronique.
Ça, ouais, faudrait revenir sur à quel point comment les écriveurs d'histoire. j'aime bien écrire les écriveurs plutôt que les écrivains. Les écriveurs d'histoire nous racontent le futur. C'est vrai que ça pourrait être un prochain sujet.
Alors, autour de la table, vous êtes OP pour. La singularité technologique.
Est-ce que les lunettes sont remboursées par la Sécu?
Eh ben écoute, on verra.
Parce que ici, c'est toujours pas remboursé.
Valentin, je te propose qu'on en parle.
Je suis pas sûr qu'avec la population sur Terre, ce soit une question, enfin quelque chose de souhaitable. Allonger encore le temps de vie.
Ah bah non, si on ressemble à rien dans les EHPAD, effectivement,
non,
ça sert à rien.
Non, puis même si la Terre ressemble à rien.
Ouais.
C'est compliqué.
Disons que, ouais. En tout cas, pour ma part, j'ai pas l'impression que ce soit là une grosse priorité.
Non, c'est s'occuper de déjà sauver la planète avant.
Ben voilà, déjà tout ce qui se passe.
Humain immortel, on est d'accord.
Ou d'avoir des nouveaux modèles politiques, etc. Enfin, de changer de ce qu'il y a dans le présent. Bon.
J'avais un dernier morceau.
Pour clôturer cette émission, on va se quitter là-dessus.
Exactement.
En tout cas, merci à tous les trois d'avoir participé à cette nouvelle émission de Brisons la glace. On se quitte avec
un morceau qui a été fait entièrement à l'intelligence artificielle, une fois de plus, jusqu'aux voix. Voilà, c'est parti avec un Français qui s'appelle Benoît Carré et qui est sous le nom de Skigeux.
Ciao à tout le monde.
Bye.
Au revoir.
Look at me. What do you see? Any idea of what I'm supposed to be? Look at me. I'm on my knees. Begging you to reveal the magic in me. A melody. A symphony.